Chapitre 22. Berkeley. Comme un globe ivre, tournoyant autour d'un soleil en feu. Alberto se leva et se dirigea vers la fenêtre. Sophie vint à ses côtés. Au bout d'un moment, ils aperçurent un petit avion à réaction qui survolait les toits. Derrière lui, flottait une banderole. Sophie s'attendait à lire une quelconque publicité pour un concert, mais l'avion se rapprocha, et quelle ne fut pas sa stupéfaction de lire « Toutes mes félicitations pour ton anniversaire, Hilde ». « Il est obstiné », fut le seul commentaire d'Alberto. De gros nuages noirs venus des plaines du sud s'étaient accumulés au-dessus de la ville. Le petit avion fut comme happé par un lourd nuage et disparut. « Il y a de l'orage dans l'air », dit Alberto. « Je prendrai le bus pour rentrer. Espérons que ce n'est pas encore un coup du major. Il n'est quand même pas tout puissant. » Alberto ne répondit pas et retourna s'asseoir. « Nous avons à parler un peu de Berkeley », déclara-t-il après un moment. Sophie aussi s'était rassise et se surprit à se ronger les ongles. George Berkeley était un évêque irlandais qui vécut de 1685 à 1753, commença Alberto avant de marquer une longue pause. Berkeley était un évêque irlandais, répéta Sophie. Et aussi un philosophe. Ah ? Il sentit que la philosophie et la science mettaient en danger la conception chrétienne du monde. Le matérialisme s'attaquait à la foi, selon laquelle Dieu avait créé l'univers et le maintenait en vie. Oui, et alors? Eh bien, Berkeley fut l'empiriste qui alla le plus loin dans ses conclusions. Parce qu'il a dit que nous ne pouvons connaître le monde que par nos sens? Pas seulement. Il a montré que les choses sont exactement comme nous les percevons. Mais à cette différence près, qu'elles ne sont pas des choses. Comment ça? Tu te rappelles que Locke avait insisté sur le fait que nous ne pouvons rien dire sur les qualités secondaires des choses. Nous pouvons affirmer qu'une pomme est verte et acide, mais cela n'engage que nous. Par contre, les qualités primaires, telles que la masse, le volume et le poids, appartiennent réellement au monde extérieur qui, lui, a une substance physique. Et je n'ai pas encore perdu la mémoire, que je sache. Locke pensait, à la suite de Descartes et Spinoza, que le monde physique est une réalité. Tiens ! Eh bien, c'est ce point que Berkeley, en empiriste conséquent, va mettre en doute. Selon lui, la seule chose qui existe est ce que nous percevons. Justement, nous ne percevons pas la matière ou encore la substance. Nous ne pouvons saisir le monde à pleine main, comme si c'était un simple objet. En partant de l'hypothèse que tout ce que nous percevons est une manifestation d'une substance cachée, nous commettons une erreur. Nous ne sommes absolument pas en mesure de fonder une telle assertion. Mais enfin, regarde ! Sophie donna un coup de poing sur la table. Aïe ! Gémit-elle, tant elle avait frappé fort. Est-ce que cela ne prouve pas suffisamment que nous avons affaire à une vraie table qui est composée d'une matière réelle ? Qu'as-tu senti?
Quelque chose de dur.
Tu as une perception nette de quelque chose de dur, mais tu n'as pas senti la matière même de la table. Ainsi, tu peux rêver que tu te cognes contre quelque chose de dur, alors qu'il n'y a rien de dur dans ton rêve.
Effectivement, pas en rêve.
On peut aussi influencer la perception de quelqu'un. Sous hypnose, un homme sentira le chaud ou le froid. Les caresses comme les coups de poing.
Mais si ce n'est pas la table elle-même qui était dure, qu'est-ce qui m'a fait sentir quelque chose de dur?
Berkeley prétendait que c'était une volonté ou un esprit. Selon lui, toutes nos idées ont une cause extérieure à notre propre conscience. Mais cette cause est de nature spirituelle et non matérielle. Sophie avait recommencé à se ronger les ongles. Alberto poursuivit. Selon Berkeley, ma propre âme peut être la cause de mes propres représentations, comme dans le cas du rêve.
Mais seule une autre volonté ou un autre esprit peut être la cause des idées qui déterminent notre monde matériel. Tout découle de l'esprit, qui agit en toute chose et en quoi toute chose consiste, disait-il. Et il s'agirait de quel genre d'esprit ? Berkeley pense à Dieu, naturellement. Il alla jusqu'à dire que nous pouvons même affirmer que l'existence de Dieu est beaucoup plus clairement perçue que celle des hommes. Alors, on est même plus sûr d'exister ? Écoute, tout ce que nous voyons et sentons est une conséquence de la puissance de Dieu, rappelait Berkeley, car Dieu est intimement présent dans notre conscience et fait surgir toute cette multitude d'idées et de perceptions auxquelles nous sommes sans cesse exposés. Le monde entier, ainsi que toute notre existence, repose entre les mains de Dieu. Il est l'unique cause de tout ce qui est. Là, tu m'embouches un coin. C'est le moins qu'on puisse dire. Être ou ne pas être n'est donc pas toute la question. Il faut aussi se demander ce que nous sommes. Sommes-nous de vrais êtres humains en chair et en os ? Notre monde est-il constitué de choses réelles ou sommes-nous seulement entourés de conscience ? Car Berkeley ne se contente pas de mettre en doute la réalité matérielle, mais aussi le temps et l'espace qui, selon lui, n'ont absolument pas d'existence indépendante. Notre perception du temps et de l'espace est quelque chose qui n'existe que dans notre conscience. Une ou deux semaines pour nous ne sont pas nécessairement une ou deux semaines pour Dieu. Tu as dit que pour Berkeley, cet esprit qui est à l'origine de tout, c'est Dieu. Oui, mais pour nous... Eh bien, pour nous, cette volonté ou cet esprit qui agit sur tout peut fort bien être le père de Hilde. Sophie se tut, consternée. Son visage tout entier n'exprimait qu'un grand point d'interrogation. Puis, elle se ressaisit et demanda tout à coup « Tu y crois, toi ?»« Je ne vois pas d'autre possibilité. Cela semble être la seule explication plausible. Je pense à tout ce à quoi nous avons eu droit. Les cartes postales et tous les événements étranges qui se sont produits ici et là, comme Hermès se mettant à parler, ou moi-même, me trompant de prénom. Est-ce que tu te rends compte que je t'ai appelée Sophie, ma chère Hilde, alors que j'ai tout le temps su que tu ne t'appelais pas Sophie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne tourne pas rond ou quoi? Mais si, ça tourne. Et ça tourne, mon enfant, comme un globe ivre tournoyant autour d'un soleil en feu. Et ce soleil, c'est le père de Hilde ? On peut présenter les choses comme ça. Tu veux dire qu'il a été une sorte de Dieu pour nous ? Oui, et sans en être le moins du monde gêné. Quel culot ! Et Hilde, dans tout ça ? Elle est un ange, Sophie. Un ange ? Hilde est celle à qui s'adresse cet esprit. Tu veux dire qu'Albert Knag parle de nous à Hilde ? Ou qu'il écrit sur nous ? Car nous venons de le voir, comment pourrions-nous percevoir la matière de notre propre réalité ? Nous ne pouvons savoir si notre réalité extérieure est faite d'ondes sonores ou de papier et d'écriture. Selon Berkeley, nous savons tout au plus que nous sommes faits d'esprit. Et Hilde est donc un ange. Oui. Arrêtons-nous là. Bon anniversaire, Hilde. À cet instant, la pièce fut inondée d'une lumière bleutée, et quelques secondes plus tard, ils entendirent gronder le tonnerre qui secoua toute la maison. Le regard perdu, Alberto se taisait. « Il faut que je rentre, » fit Sophie en se levant. Hermès, qui dormait à son habitude sous la penderie, se réveilla quand elle ouvrit la porte d'entrée. Elle crut l'entendre lui dire « À bientôt, Hilde. » Elle descendit l'escalier à toute allure et se retrouva dans la rue. Il n'y avait pas un chat. Il faut dire qu'il tombait des cordes. Quelques voitures glissaient sur l'asphalte mouillé, mais il n'y avait aucun bus en vue. Elle courut jusqu'à la place du marché et retraversa toute la ville avec une seule idée en tête. « Demain, c'est mon anniversaire », réfléchissait-elle. N'était-ce pas un peu amer de se rendre compte, la veille de ses 15 ans, que la vie n'était qu'un songe ? C'était comme rêver de décrocher le gros lot d'un million et comprendre juste au moment de toucher la somme que ce n'était que du vent. Sophie coupa par le stade gorgé d'eau. Elle aperçut alors quelqu'un qui courait à sa rencontre. C'était sa mère. Plusieurs éclairs déchirèrent le ciel. Sa mère la serra violemment contre elle. « Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie ?»«
Je ne sais pas, » répondit Sophie en larmes. « C'est comme un mauvais rêve. »